Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition, on part à la rencontre d'un réfugié vietnamien devenu diacre au Manitoba. Il vient de mettre sur pied un centre de dons et une banque alimentaire.
Je suis immigrant ici depuis 1985. On m'a accepté, on m'a reçu d'une manière très bonne, très sainte aussi. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose pour aider les immigrants. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a choisi pour faire ça.
Les touristes sont de retour dans les Maritimes et ailleurs dans le monde. Et au Nouveau-Brunswick, ils étaient deux fois plus nombreux que l'an dernier.
Il n'y avait plus moyen de manger quelque chose sans avoir une réservation. Donc, il y a quand même plus de monde, à mon avis, en comparaison avec le temps de COVID.
Et 8 jeunes danseuses acadiennes font fureur en France dans un festival consacré à l'Acadie, imaginez.
Toutes les fois qu'on dansait, la salle était pleine. Comme des fois, on dansait sur des places publiques. Le monde s'amenait. Les filles ont signé des autographes. Le monde ne s'est posé avec ça après. Les médias locaux venaient faire des entrevues avec les filles.
Content de vous savoir avec nous.
Vincent Lavoie à Plamondon, en Alberta. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors, on lance l'émission avec de bonnes nouvelles, en particulier pour les commerçants et les acteurs de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick, car les touristes ont été nombreux à choisir la province pour y passer leurs vacances d'été. En fait, deux fois plus nombreux que l'an dernier. Ça change la dynamique. Les données publiées par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick confirment cette reprise. Le nombre de nuitées vendues en juin dans l'ensemble de la province est passé de 76 322 en 2021 à 158 812 nuitées en 2022. Sébastien Caron a rencontré deux de ces joyeuses touristes en déplacement dans la province. Il s'agit de Yolande Naulers et de Silk Class, deux touristes originaires de Malines et d'Anvers, en Belgique.
L'été est habituellement une bonne saison pour le tourisme en général et le Nouveau-Brunswick voit également son nombre de voyageurs visiter la province. D'après les chiffres qui nous ont été communiqués par Statistique Canada et par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, le nombre de ventes de chambres d'hébergement pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick en juin 2022 était de 158 812, soit un peu plus du double de celui de juin 2021, qui était alors de 76 322. Pour Yolande et Syl, qui viennent de Belgique, il semble que le monde soit effectivement de retour, notamment dans les endroits les plus touristiques. Elles sont allées par exemple à visiter Saint-Andrews et le monde était là.
On avait du mal à trouver des places pour nous stationner. Donc le parking là, c'était pas super. Oui, et aussi pour avoir un endroit pour aller manger un bout, ça n'allait pas vraiment parce que là, ben, c'est normal ici, les heures apparemment de fermeture, c'est beaucoup plus tôt que chez nous. Mais même là, il n'y avait plus moyen de manger quelque chose sans avoir une réservation. Donc oui, il y a quand même plus de monde, à mon avis, en comparaison avec le temps de COVID.
Concernant les formalités pour arriver au Canada depuis la Belgique, elles ont été surprises de la rigueur demandée aux voyageurs pour entrer au pays, notamment en comparaison avec ce qui est fait aux États-Unis. Elles soulèvent d'ailleurs que la vie privée est peut-être un petit peu fragilisée et que cela peut être compliqué pour les personnes qui ne seraient pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies.
J'étais un peu intimidée parce que je vais aussi voyager dans l'État-Unis. C'est plus facile et ça me surprit un peu parce que je pense toujours que les États-Unis, c'est très, très strict. Mais ici, avec le COVID, c'est Canada qui est plus strict parce qu'on doit transmettre l'app ArriveCan. On doit remplir des formulaires, télécharger le certificat d'être vacciné. C'est vraiment beaucoup, c'est pas facile et nous sommes encore jeunes. Et je pense que c'est très difficile pour des gens un peu plus âgés.
Oui, parce que nous, on connaît les applications, oui. On a les téléphones, etc. Mais les personnes plus âgées qui travaillent pas vraiment avec les courriels, oui, les téléphones intelligents,
Oui, et c'est aussi un peu, le privacy n'existe plus parce que je dois télécharger toutes mes preuves de vaccination. OK, moi, je peux entrer parce que j'ai choisi d'être vaccinée, mais en Belgique, j'ai aussi des amis qui ne sont pas vaccinés, c'est leur choix, mais ils ne peuvent pas entrer. Alors, c'était beaucoup de formalités pour venir ici.
En revanche, une fois les formalités passées, l'accueil est toujours de qualité et les craintes liées à la COVID semblent avoir disparu.
Je trouve que tout le monde est très agréable
oui,
ici.
Oui, très convivial, très accueillant.
Oui, oui.
Oui, ça oui, même quand ils savent qu'on n'est pas d'ici, ouais, ils sont vraiment gentils, ils demandent, ils posent des questions. Où êtes-vous? Oh, vous avez un accent un peu bizarre. D'où est-ce que vous venez?
Le fait que le masque soit toujours obligatoire à certains endroits, comme à l'aéroport de Fredericton, peut être un peu déroutant pour les voyageurs étrangers, surtout quand leur premier vol pour venir de Belgique s'arrêtait à Boston, aux États-Unis. Des subtilités qui soulèvent des questions, mais qui sont accueillies avec le sourire.
On est venu par l'aéroport de Fredericton, et là, il fallait aussi porter un masque dans le bâtiment de l'aéroport. Et quand même, ça fait du temps que, allez, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a plus dû vraiment porter un masque à l'intérieur d'un bâtiment, que c'était vraiment obligatoire. Donc là, c'était encore s'adapter, encore porter le masque parce que, ben, ici, maintenant, quand tu vas dans les restaurants, etc., ce n'est plus le cas. Si tu vas dans un supermarché, n'importe où, ce n'est plus obligatoire. Bien qu'on voit encore des affiches qui disent « oui, ce serait mieux d'avoir un masque », donc prière de porter le masque, mais si on ne le fait pas, ce ne serait pas grave non.
J'ai aussi voyagé à Boston. Alors là, c'est un très grand avion, on ne doit pas porter un masque, mais dans l'autre avion, on est obligatoire, c'est obligatoire.
Le pourquoi manque.
Oui, oui, oui.
Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on devrait le faire alors? Donc d'abord, tu prends un avion vers les États-Unis et puis tu changes, tu fais un transfert vers le Canada. Donc dans l'un avion, on n'a pas de masque et puis dans l'autre, il faut le porter. C'est un peu...
Mais pour rester positif. Oui, ce n'est pas un problème, hein. Ce sont des règles.
Oui, voilà, on
et
les
voilà,
suit.
Mais nous sommes contents qu'ici, dans les restaurants et tout ça, c'est plus nécessaire, c'est un peu plus agréable.
On peut respirer, enfin. Mm-hmm.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On a beaucoup parlé de la fête des Acadiens au mois d'août de cette année. C'était leur anniversaire, d'ailleurs, le 15 août dernier. Mais on ne célébrait pas qu'au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Saviez-vous qu'on tient même une semaine acadienne en France? C'est même devenu depuis 17 ans un événement annuel dont l'objectif est de resserrer les liens entre la côte de Nacre en France et l'Acadie. Eh bien oui, si bien que 8 jeunes danseuses de la troupe de danse La Swing du Sweat de l'école NDA de Chétiquan viennent de poser leurs valises après un séjour là-bas. Les jeunes artistes s'y sont produites lors de la 17e édition de la Semaine acadienne à Courseulles-sur-Mer, sur la côte de Nacre. L'événement se tenait du 7 au 15 août dernier. Cette manifestation de l'Acadie en France rend notamment hommage aux soldats acadiens qui ont participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Trois artistes de Chétiquan, Hope Deveau, Chloé Odéhaché et Abigail Haché, y ont dansé en hommage à leur arrière-grand-oncle, Eddie Aucoin, un soldat acadien du régiment de La Chaudière qui a débarqué en 1944 à Bernières-sur-Mer. Depuis sa fondation, la formation du Swing du Sweat s'est produite un peu partout dans les Maritimes, au Québec, en Louisiane et bien sûr en France. Notre journaliste Daniel Aucoin, posté à Chétiquan, est en compagnie de Christine Doucet, directrice de la troupe de danse La Swing du Sweat. Il discute avec elle de ce voyage en France.
Alors bonjour Christine. Bonjour, Daniel.
En tant que directrice de la troupe de danse, j'imagine que tu dois être pas mal fière des 8 jeunes danseuses de Chétiquan.
Oui, extrêmement fière. On a vraiment fait un beau voyage. Les filles avaient un spectacle presque tous les jours. Ils avaient vraiment bien dansé. Puis leur performance a vraiment été appréciée par le monde. Et en Normandie, ça a vraiment bien été.
On sait qu'il y a des jeunes artistes de Chétiquan qui ont dansé en hommage à leur arrière-grand-oncle Eddie Aucoin, Eddie Médric, soldat acadien du régiment de la Claudière qui débarqua à Bernières-sur-Mer. Comment est-ce que ça s'est déroulé?
Ça s'est vraiment bien passé. On faisait beaucoup de spectacles, mais on faisait aussi beaucoup de cérémonies commémoratives. On en a fait 5 aussi, ça, je crois, puis ça, c'était vraiment spécial. Puis une des cérémonies, justement, à Barnières, c'était exactement sur le lieu jusque le bateau que Eddie était à bord aurait débarqué. Fait que ça, c'était vraiment spécial. Puis avant de partir, Réjean avait venu nous parler puis de son père, puis juste pour informer les filles de l'histoire de son père. Puis il nous avait partagé que Eddie avait été séparé de son régiment à un moment, puis il y a une famille qui l'avait pris chez eux, c'était un médecin. Puis Eddie puis Henriette avaient continué à correspondre avec cette famille-là pendant des années. Mais après leur mort, Régent puis le reste des enfants, ils avaient perdu trac de leur famille. Ça fait qu'à une des cérémonies, on a parlé de ça. Puis il y avait une journaliste qui était sur place, qui s'intéressait vraiment à l'histoire à Eddie, puis la connexion avec nous autres. Fait qu'elle a fait sa recherche, puis elle a trouvé il y a des enfants du docteur qui avait accueilli Eddie chez eux. Puis elle a trouvé son adresse, elle a trouvé son numéro de téléphone. Fait qu'on est revenu avec des informations à partager avec la famille à Eddie. Ça fait que ça, c'était vraiment spécial.
Intéressant. C'était quoi la réaction des gens de la France par rapport aux danses acadiennes?
Moi, je dirais qu'il avait vraiment aimé ça. Toutes les fois qu'on dansait, la salle était pleine. On a fait des présentations de jour aussi, comme des fois on dansait sur des places publiques. Le monde, ça menait. Comme il aimait vraiment ça. Ça a vraiment été apprécié. Comme les filles ont signé des autographes. Le monde venait se faire pause avec eux après. Les médias locaux venaient faire des entrevues avec les filles. Il y avait comme des billboards, manière dans la ville, là, où il y avait comme des portraits de la scène du théâtre. Il avait vraiment été vraiment bien reçu.
Qu'est-ce que tu penses que les 8 danseuses de Chétiquan vont retirer de cette expérience-là?
Il y avait assez de différentes affaires, puis il y avait assez de choses à retenir, mais je crois qu'ils s'en vont. Ils s'en vont vraiment, vraiment enjoyer. Puis je crois qu'ils avaient aimé. Ils avaient aimé ça comme de. Tu sais, ils s'accoutumaient à danser par ici, puisque tout le monde connaît la danse. Comme le monde de Chétiquan apprécie vraiment la soigne du théâtre. Mais par là, c'était vraiment de nouveau. Ça fait bien de pouvoir partager ça avec eux. Puis je crois qu'ils avaient vraiment aimé aussi. On a eu la chance de voir. C'était un gros festival. Ça fait qu'il y avait des artistes des Îles-de-la-Madeleine, il y avait des artistes du Nouveau-Brunswick, des artistes du Québec. Ça fait qu'il avait aussi aimé ça de pouvoir aller voir d'autres spectacles. Puis de voyager, tu sais, de voir Paris, de voir le Mont-Saint-Michel, de voir tous ces petits villages-là, le long de la côte, d'apprendre à propos de l'histoire canadienne, l'histoire des Acadiens, comme, je sais pas, il y avait assez d'apprentissage, puis il y avait assez de nouvelles expériences. Ça fait que je crois que c'est acte comme tout ça mis ensemble. Ça a vraiment fait un beau voyage.
On dit que le festival La Semaine acadienne, c'est la manifestation la plus importante consacrée à toute l'Acadie en France. Comment vous autres, vous avez trouvé l'organisation de La Semaine acadienne?
C'était un vraiment, vraiment beau festival. Puis c'était spécial de, tu sais, traverser toute l'Atlantique, arriver dans un autre pays, puis de voir des drapeaux acadiens partout, entendre la musique acadienne, entendre parler de l'Acadie. Comme, tu sais, des fois, quand tu grandis, en Nouvelle-Écosse, comme Acadien, t'es vraiment une minorité. Puis même des fois, ailleurs au Canada, il y a du monde qui sait pas qu'est-ce qu'un Acadien. Ils savent pas qu'on parle français, etc. Mais là, c'était vraiment, le monde était vraiment au courant de tout ça. Puis on était vraiment, vraiment bien reçus. Puis comme le teint à mort, c'était un gros teint à mort. Tous les concerts, c'était vraiment un gros festival. Puis comme, en face à l'organisation, c'était vraiment bien organisé, puis c'était tous des bénévoles. Mais comme on avait des chauffeurs qui nous conduisaient partout, on avait des femmes qui nous servaient à manger tous les jours, les gens qu'on voyait, comme qu'on organisait les spectacles, tout le monde était assez nice, puis c'était assez bien organisé, comme on a vraiment eu comme, on s'est vraiment créé des amitiés avec le monde qui avait là, puis le monde qui organisait le festival. C'était vraiment, vraiment nice.
On sait que la Swing du Suède, c'est une troupe de danse qui, c'est une activité parascolaire de l'école NDA, une école du Conseil scolaire acadien provincial. Comment important qu'a été l'appui du Conseil scolaire de l'école NDA, des parents, de la communauté pour le projet?
Comme tout le temps, l'école, le conseil scolaire, la communauté, tout le monde est tout le temps derrière nous autres. Dans tout ce qu'on fait, la Swing du Suède est vraiment appuyée par tout le monde. Ce festival ici, c'est en particulier, on n'a pas eu besoin de trop comme, d'appui parce que c'était tout financé par la province puis par le festival soi-même. Fait qu'au niveau, c'est comme des fois, il y a d'autres projets qu'on fait qu'on a vraiment besoin de l'aide avec des prélèvements de fonds puis ça. Tu sais, c'était pas mal organisé à un niveau plus haut, mais comme qu'on a vu la manière que le monde suivait, comme tout ça, ce qu'on postait sur Facebook, puis tout le monde était intéressé de voir des nouvelles, comme tout le temps aussi, qu'on est vraiment bien appuyé par la communauté.
Christine, tu nous avais mentionné avant de partir que tu avais vraiment hâte de voir Laurence Jalbert en spectacle. Ça s'est bien passé?
C'était pas Laurence Jalbert, Isabelle Boulay.
Isabelle Boulay, OK.
Oui, Isabelle Boulay était là. Fait que ça, c'était vraiment... Pour moi, c'était un des highlights du voyage. C'était incroyable. C'était différent aussi parce que je crois que quand elle se présente en France, je crois qu'elle se présente au Canada, c'était pas comme des différentes chansons. Toutes les hits que je voulais entendre, il y en a deux qu'elle a fait que j'étais vraiment contente d'entendre. Mais c'est sûr que ce répertoire-là, c'était plus pour un public français que si elle avait été par ici. Mais c'était certainement vraiment, vraiment un beau spectacle.
Alors, la Swing du Suède qui devrait reprendre ses activités à l'automne?
Oui, on a pas grand temps à se reposer. Là. On a commencé tout de suite. On a le spectacle des Celtic Colors qui s'en vient au mois d'octobre. Fait que ça sera la prochaine activité qu'on va faire sur les Celtic Colors.
Alors, on a toute la communauté. Bravo pour votre performance en France à l'occasion du festival La Semaine acadienne. Christine Doucette, qui est directrice de la Swing du Suède, merci de nous avoir parlé de tout ça.
Merci beaucoup.
Bonne chance.
Bye.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bien sûr, un des grands plaisirs qu'on a dans ce métier est de partir à la rencontre de personnes qui ont des parcours de vie inspirants, étonnants et desquels on ne cesse d'apprendre. C'est ce qui est arrivé à notre journaliste manitobaine Aurélie Nana Forson, qui a au fil de ses recherches trouvé sur sa route Alphonse Tran. Il est diacre permanent de la cathédrale de Saint-Boniface. Un diacre, m'apprend le site diaconat.catholique.fr, est un homme marié ou célibataire qui a répondu à l'appel de l'Église catholique et après un temps de discernement et de formation, il est ordonné par l'évêque de son diocèse qui lui confie alors une mission. Ordonné donc pour la vie, le diacre exerce un ministère au service de la charité, de la liturgie, de la parole de Dieu. Et bien voilà pour le petit enseignement, mais ce n'est pas son appel qui étonne, mais son parcours de vie. Monsieur Tran, un réfugié vietnamien arrivé au Canada en 1985, a refait sa vie à Winnipeg, au Manitoba. Il a 93 ans, à l'air d'en avoir 60. Il est à cette église depuis 8 ans. Il a fui le régime communiste par bateau, a fait partie de la vague des boat people au Canada. Né au Cambodge, il a appris le français depuis son jeune âge, il ne l'a jamais oublié. Servir les immigrants et les plus démunis avec humilité à la cathédrale de Saint-Boniface est sa plus récente mission. Alphonse Tran, diacre permanent de la cathédrale de Saint-Boniface, gère un centre de dons et une banque alimentaire de taille modeste avec les moyens du bord pour aider ceux et celles dans le besoin, notamment les réfugiés et les immigrants comme lui l'a été un jour. De Saint-Boniface au Manitoba, Alphonse Tran, au micro d'Aurélie Nana Forson.
Je suis immigrant ici depuis 1985. On m'a accepté, on m'a reçu d'une manière très bonne. Très, très sainte aussi. Je me suis dit, pourquoi c'est pas moi qui retourne tous ces accueils-là aux immigrants comme moi. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose et j'ai entendu l'appel du Seigneur pour devenir diacre de service pour aider les immigrants. Je suis arrivé au Canada dans le groupe des Boat People, 70-80. On appelle ça des Boat People, c'est-à-dire des Vietnamiens qui s'échappent du régime communiste dans les bateaux. J'étais venu ici par moi-même parce que les communistes, le régime communiste n'a pas permis à ma famille de venir avec moi. Alors, j'ai dû attendre le processus 4 ans pour pouvoir les faire venir.
Et est-ce qu'il y a une population vietnamienne importante à Winnipeg?
Actuellement, la plupart de la population vietnamienne, ce sont des bouddhistes. Mais ils sont parsemés partout. Tandis que la proportion catholique, c'est à peu près 3 000 qui se rassemblent dans une paroisse qu'on appelle la paroisse de Saint-Philippe-Mine. Je dois vous dire la vérité que j'étais né au Cambodge. L'Indochine était colonisée par les Français et j'ai appris de mon enfance, à l'âge de l'enfance, le français, dans les écoles françaises. Après cela, quand j'étais allé au Vietnam pour étudier, j'ai pris la pédagogie, c'est-à-dire aller enseigner. Et ma matière principale, c'est enseigner le français.
Donc vous avez été un professeur de français à un moment?
Exactement.
Est-ce que le Canada s'est imposé comme un choix pour vous?
Il y a beaucoup de choix quand j'ai décidé de venir ici. Tout d'abord, au lieu d'aller aux États-Unis, je pourrais aller aux États-Unis parce que j'étais lieutenant de l'armée, ancienne armée. Et puis, mais je n'aime pas aller aux États-Unis. Et je reste au Canada parce que je peux faire venir ma famille plus facilement. Et puis, je peux garder ma foi plus facilement aussi. Pourquoi j'ai choisi Manitoba? Parce que je trouve que Manitoba, c'est un endroit où je peux vivre plus facilement qu'à Montréal ou bien à Toronto. Quand j'enseigne le français, je connais pas mal sur Montréal, sur Toronto. J'ai choisi de venir dans une province le moins... Il y a le moins de population, comme ça je pourrais m'agrandir beaucoup mieux. L'archevêque m'a cherché d'aider les immigrants, parce que je suis moi-même immigrant. J'étais baptisé catholique et depuis mon enfance, je travaille pour l'église catholique. Et puis, quand j'étais étudiant au Vietnam, je travaille déjà pour le service des pauvres, par exemple. J'étais dans la société de Saint-Vincent-de-Paul à Saigon auparavant et je travaille pour aller ramasser les fœtus abandonnés dans les poubelles pour les ensevelir plus proprement. C'est pourquoi je continue toujours ce chemin-là. Et actuellement, ici au Canada, Monseigneur m'a cherché d'essayer d'établir cette société à la cathédrale. Et après 6 ans, maintenant, c'est sur pied.
Mais donc, à un moment dans votre parcours, vous étiez impliqué avec l'Église et puis vous êtes devenu lieutenant dans l'armée vietnamienne?
J'étais dans l'armée vietnamienne, dans le combat contre les communistes.
Et puis ensuite, un peu plus tard, vous avez immigré au Canada.
Oui.
Et puis 4 ans après, vous avez fait venir votre famille ici.
Oui.
Personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus surpris au niveau de la culture quand vous êtes arrivé au Manitoba?
Pas de surprise pour moi, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été resté au camp des réfugiés en Thaïlande pendant 2 ans et demi pour pouvoir aller au Canada au lieu d'aller en Amérique. Alors j'ai appris beaucoup de choses sur la culture canadienne. Et surtout, j'aime aussi étudier l'anglais parce que avec l'anglais, on va vivre mieux ici, à Manitoba. Actuellement, nous sommes en train d'établir un petit comité pour la distribution de la nourriture pour les immigrants. Et nous avons déjà fait depuis 5 ans, 6 ans, en apportant la nourriture de la banque alimentaire de Steinbach. Et après cela, pour redonner, redistribuer aux immigrants de la cathédrale. Un message pour les immigrants. J'étais immigrant aussi. Et jusqu'à maintenant, je veux dire la vérité, c'est que nous sommes toujours des étrangers ici. Même, je suis déjà citoyen canadien depuis 35 ans, mais il faut y penser et nous entraider. Si j'entraide les immigrants m'entraident aussi pour que la vie soit meilleure ici.
Merci beaucoup, M. Tran.
Vous êtes bienvenue.
Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Voilà, c'est tout pour nous. On remercie nos trois journalistes cette semaine, Aurélie Nana-Forson, Sébastien Caron et Daniel Aucoin, notre coordonnateur national Stéphane Bénard, ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Merci à vous et à votre radio d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, j'espère.